grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand et vous face en direct ou en podcast. Quand nous étions petits, manger de la viande tous les jours, midi et soir, était une norme sociale et culturelle largement partagée. Déguster un steak, une cuisse de poulet, un morceau de gigot, une saucisse pour être fort comme un bœuf, comme un cheval, pour reconstituer ses forces. Et puis au fil du temps, l'éducation nutritionnelle, les préoccupations de santé ont provoqué une baisse de la consommation de produits carnés au profit des céréales et des légumineuses, désormais parées de toutes les vertus. Végétariens ou pas, de plus en plus de Français invitent à leur table pois chiches, lentilles, pois cassés, fèves et autres haricots tarbés. Nous verrons quelles sont leurs véritables vertus, comment les choisir, comment les accommoder. Nos invités vous délivreront quelques recettes savoureuses, particulièrement adaptées à cette époque de l'année, pour le grand chef Joël Robuchon, qui disait « On n'imagine pas combien un simple plat de lentilles, de pois chiches ou de soja peut être grand. » Et nos invités nous le confirmeront ce matin, le chef cuisinier Régis Marcon, la diététicienne Alexandra Rossion, Danielle Jerkens, directrice de la rédaction de Elle à Table, notre complice ce matin. Et avec nous, bien sûr, comme tous les lundis, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Dites-nous quel rapport vous entretenez avec les céréales et les légumineuses, amour, haine, indifférence. Et surtout, faites-nous partager vos meilleures recettes 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Boulieu.
Bonjour Aline.
Vous êtes médecin, écrivain, l'auteur du blog Alors Voilà, qui réconcilie les soignants et les patients. Et chaque lundi, dans votre chronique, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et de ce qui fait le sel de l'amour entre les êtres humains. Je veux bien sûr parler des infections sexuellement transmissibles.
Ah oui, tout à l'heure, c'est tout un programme. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Aline.
On vous retrouve chaque mois. Vous êtes l'ambassadeur très impliqué de la Fondation pour la Recherche Médicale. Ce mois-ci, vous avez rencontré l'équipe de Claire Poyard, responsable du pôle de biologie des hôpitaux Paris-Centre.
Oui, elle travaille depuis 25 ans sur une bactérie, le streptocoque du groupe B, qui dans le monde entier est la principale cause d'infection grave chez le nouveau-né et particulièrement la méningite.
A tout à l'heure Thierry Lhermitte, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour à tous nos invités, bonjour Régis Marcon.
Bonjour.
Vous êtes chef triplement étoilé du restaurant Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire et vous publiez un somptueux livre aux éditions de La Martinière, Céréales et légumineuses, où vous sublimez le riz basmati, les pois chiches, les lentilles, le haricot tarbé. Alors longtemps, les céréales et les légumineuses ont souffert d'une image triste liée à la cantine, Régis Marcon.
Les céréales peut-être un peu moins, mais les légumineuses bien entendu. Il faut savoir que depuis 40 ans, on a divisé par 7 la production de légumineuses en France et malheureusement, on en consomme beaucoup moins maintenant. Et c'est dans l'air du temps et tant mieux par rapport à la santé qu'on les remette à l'honneur.
Comment êtes-vous tombé amoureux de ce vaste répertoire gastronomique ?
C'est toute mon enfance, mon terroir. Déjà à l'école, on triait les lentilles. Mmh. Je dirais pas que c'était le meilleur amusement, mais voilà, dès l'enfance, avec la lentille surtout, et puis bien sûr les pois cassés. Et puis je faisais partie d'une famille où on en consommait quand même beaucoup, parce qu'on n'avait pas toujours les moyens de se payer la viande non plus. Mmh.
Et à travers vos voyages, partout dans le monde, vous avez découvert des façons assez extraordinaires de déguster les céréales et surtout les légumineuses.
Ouais, j'ai l'habitude, pendant 2 ans, de travailler sur un thème, ça a été les herbes, les champignons, et depuis 2 ans, je voyage beaucoup, notamment en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, et on s'aperçoit que dans ces pays, les légumineuses n'ont pas toujours été abandonnées. Mmh. Je dirais que la terre de prédilection, c'est l'Inde, parce que là-bas, les gens sont plutôt végétariens.
Alors vous êtes en duplex de Nice, Nice, la patrie de la soca, à base de farine de pois chiche.
Oui, je suis en ce moment en conférence au World Summit, où on parle justement de cette nutrition santé. Ça fait partie des thèmes qu'on aborde de plus en plus dans la cuisine. Et le but de ce livre, c'était de livrer au lecteur la connaissance surtout sur la cuisson, parce que souvent les légumineuses font peur, parce qu'on dit c'est long à préparer, etc. J'ai voulu donner le maximum d'informations pour qu'on puisse les préparer chez soi.
On y reviendra tout à l'heure. Danielle Jerkens, directrice de À la table. Dans l'imaginaire culinaire collectif, les légumineuses ne font pas forcément rêver.
Non. Clairement. Ce que vous disiez, je pense, tout à l'heure est très important. Il y a eu une désaffection pendant quasiment deux générations au profit du tout-viande. Donc les légumineuses, c'est la viande du pauvre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu compliqué à préparer. La troisième chose, c'est que si on ne sait pas cuisiner, ça peut être un peu répétitif, fadasse. Et puis il y a la dernière chose qui est que ça peut vous transformer en gazoduc quand même, il faut le dire.
C'est joliment dit, petits, Danielle Jerkens.
Petit problème de digestion. Voilà.
Quelle est la consommation de légumineuses en France?
Alors elle est assez faible. Quand j'ai cherché les chiffres, j'ai trouvé des chiffres qui sont assez bas. On estime qu'elle aurait été divisée par 10 entre le 19e siècle et aujourd'hui, et qu'actuellement en France, on consommerait moins de 2 kg par an et par habitant de légumineuses. Ça, c'est les chiffres donnés par l'ANSES au mois de janvier 2017. Ce qui est intéressant, c'est que en 2016, l'OMS a fait de l'année, donc 2016, l'année mondiale des légumineuses, et que en France, la France est vraiment un des pays de l'Union européenne qui en consomme le moins. Il y a vraiment une bascule très très importante, puisqu'il y a des produits, des légumineuses qui sont typiquement françaises, avec un certain nombre d'appellations d'origine protégée. Il y a le haricot coco de Paimpol, la lentille verte du Puy,
le haricot tarbé,
le haricot tarbé, etc. Et donc il y a une vraie tradition en France de production, en tout cas historique, de ces produits, et en même temps une désaffection qui a été très rapide.
Régis Marcon.
Oui.
Vous vouliez réagir sur les propos de Danielle Jerkens?
Oui, c'est la typicité un peu de la France. On a abandonné dans la consommation les légumineuses. Et je dirais au profit de la viande, parce qu'on mange beaucoup plus de viande maintenant, et beaucoup trop, bien sûr. Et les légumineuses sont un complément très intéressant, surtout associé aux céréales.
Et puis les céréales, les légumineuses, Régis Marcon, ne riment pas forcément avec monotonie, fadeur. Le répertoire des saveurs est très large.
Ah oui, en même temps, quand on regarde les contenus de formation de cuisine, dans les livres de cuisine, on voit très peu de légumineuses et céréales. On les voit seulement sur un accompagnement, une garniture. On ne voit pas le plat céréales légumineuses en entier. C'est un petit peu le but de ce livre, c'est d'anoblir un petit peu toutes ces recettes, qu'elles deviennent aussi dans la haute gastronomie.
Qu'est-ce qu'une légumineuse, Régis Marcon? Qu'est-ce qu'une légumineuse? Parce que moi, j'ai appris dans votre livre que l'arachide, par exemple, était une légumineuse, je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'on regroupe sous l'appellation légumineuse?
Bon, l'arachide, c'est un peu atypique, parce que c'est une légumineuse, mais on la travaille pas comme telle. Mais légumineuses, ce sont tous ces pois, ces cocos, tout ce qui est en gousse, en fait.
Les lentilles, les pois chiches, etc.,
tout à fait.
Les haricots.
Vous avez tous les lentilles, les pois cassés, les cocos, les flageolets. Voilà, ça vous en avez dans tout le monde entier.
Alexandra Rossion, vous êtes diététicienne et nutritionniste. J'aimerais qu'on évoque quelques bienfaits des légumineuses, les haricots en grains, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. Quels sont les principaux bienfaits?
Alors déjà, comme on l'a déjà indiqué, c'est très important, c'est très riche en protéines. Il y a environ 20%, voilà, c'est l'équivalent de 100 grammes de viande. Donc effectivement, on peut largement se passer de viande lorsqu'on mange des légumineuses.
Mais attention, ce sont des protéines incomplètes.
Alors oui, par contre, ce sont des protéines incomplètes, d'où l'intérêt souvent de les associer avec des céréales.
Pour pallier une déficience en acides aminés soufrés, je crois que c'est la cystéine,
oui,
c'est ça?
C'est ça, oui.
Et
ouais.
La méthionine.
Oui, exactement.
Et on pallie comment à ce déficit de ces protéines-là?
Eh bien, si vous l'associez avec des céréales, ça vous permet de compléter et donc d'avoir des protéines complètes.
Les légumineuses sont riches en fibres également?
Oui. Très riche en fibres, donc très intéressante. Par contre, effectivement, on peut vite être gêné au niveau digestion si on ne supporte pas. Et surtout, elles sont riches en vitamines du groupe B, qui sont essentielles en fait pour le fonctionnement normal de votre organisme, et notamment au niveau des muscles.
On y retrouve des minéraux, des oligo-éléments également?
Oui, c'est très riche également en minéraux. Vous avez du calcium, donc par exemple pour les personnes qui ne mangent pas de produits laitiers, c'est très intéressant. Il y a aussi également du phosphore qui permettra d'assimiler ce calcium. Alors par contre, c'est un calcium d'origine végétale qui va être moins bien assimilé par l'organisme. Et ce qu'il faut absolument, c'est finir son repas par un produit riche en vitamine D. Alors on peut apporter
Le fer. Oui.
C'est le fer. Le fer, c'est très riche en fer et ça, c'est intéressant mm-hmm. puisque justement, si vous ne mangez pas de viande, mm-hmm. vous avez quand même besoin de fer. Et il faut terminer votre repas par un fruit riche en vitamine C pour fixer le fer.
Comme le kiwi ou la mandarine,
l'orange, la clémentine.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Je trouve que un des avantages aussi, c'est qu'elles sont peu grasses. Oui. Donc, quand on peut les remplacer, quand elles peuvent remplacer la viande, bien en fait, on a des repas beaucoup moins gras. Et il y a des études qui ont montré que ça faisait baisser le risque de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est très important. Je voulais quand même revenir sur les protéines. C'est pas tout à fait, les protéines, il y en a quand même moins dans les légumineuses que dans la viande, parce que il faut parler de pois cuits. Donc, par exemple, 100 grammes de lentilles, ça ne contient pas 20 grammes de cuits de protéines, mais plutôt 8 grammes.
Oui. Et c'est la végétarienne qui parle. Hein.
Oui, alors après, effectivement, vous pouvez en manger un petit peu plus pour vous rapprocher des 20 grammes. De toute manière, ça serait intéressant de compléter avec des céréales, où là, vous vous rapprochez de la quantité normale d'une portion de viande.
Les légumineuses ont la réputation de faire grossir, de peser sur la balance. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Ah non, si vous en mangez raisonnablement, au contraire, ça vous aidera justement à perdre du poids.
Et dans l'idéal, Daniel Jerkens, il faudrait mettre un plat de légumineuses par jour sur sa table?
Ça serait absolument idéal et ça permettrait de diviser de manière spectaculaire la consommation et la production de viande. Je pense que si déjà les Français se remettaient à manger 2 à 3 fois par semaine un plat à base de légumineuses, ce qui est assez facile, hein, un plat de lentilles, un plat de haricots, des pois chiches, un couscous, tout ça représente...
Mais ça rebute beaucoup de consommateurs, les pois chiches,
les lentilles... Oui, mais parce que je pense qu'ils les ont souvent mangés mal préparés. Et effectivement, quand c'est mal préparé, ça peut être un peu fade. Lorsque c'est bien préparé, c'est juste absolument merveilleux. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que dans le monde entier, il y a traditionnellement des plats, enfin les plats emblématiques de beaucoup de cultures sont des mix de céréales et de légumineuses. Par exemple, au Mexique, on mange traditionnellement du maïs et des haricots. Et avec des piments, etc., c'était très très bon. En Inde, ça va être du riz avec des dalles de lentilles. Et croyez-moi, un dalle de lentilles bien cuisiné, ça a beaucoup de goût. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ça va être le couscous.
Et les pois chiches.
Semoule et pois chiches. Et de nouveau, ça a énormément de goût. Donc, c'est vraiment une question de mode de préparation.
Et puis Régis Marcon, de nombreuses recettes traditionnelles contiennent des légumineuses. Je pense évidemment aux petits salés de lentilles. Il y a plein de recettes traditionnelles françaises qui contiennent des légumineuses. Le cassoulet, évidemment.
Oui. Ben, dans le propre de la nutrition, disait à l'instant, il y a beaucoup de recettes traditionnelles où il y a ce mélange céréales-légumineuses qui s'est fait automatiquement, quoi. Alors, après, c'est quand on parle de flatulence, justement, dans les voyages, j'ai rencontré des gens qui les préparaient, j'ai appris certaines choses. Première chose, je pense, c'est, on le fait tous, bien entendu, faire tremper les légumineuses dans l'eau froide ou tiède, comme on veut. Mais surtout, jeter cette eau de trempage. Mmh. C'est important, qui contient l'acide phytique, qui est pas bonne, en fait, hein, surtout pour la digestion.
On reviendra tout à l'heure sur ces modes de préparation, Régis Marcon. Thierry Lhermitte, quel rapport entretenez-vous, vous, avec les céréales et les légumineuses?
J'en mange fréquemment, pas quotidiennement,
je crois savoir.
Mais fréquemment. Ouais.
Sous l'impulsion de votre épouse.
De mon épouse, oui. Et qui a raison.
Vous les mangez avec plaisir ou c'est...
Non, avec grand plaisir, non, sans aucune difficulté et avec grand plaisir.
Elle vous écoute, là, attention. Ouais, ouais. Allez, n'hésitez pas à nous appeler, à partager vos recettes au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation Stéphanie Texier. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Strip. I got
place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Beach Boys, I Get Around.
À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Ah, enfin, un repas normal.
Grand bien vous fasse.
Oh, lentille.
Non, mais c'est pas autorisé, vous vous rendez pas compte.
Sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits des céréales et des légumineuses en compagnie du mensuel Et la Table. Question témoignage au 01 45 24 7000. Alexandra Rotion, quelle est la définition? Et quels sont les bienfaits, surtout, des céréales? Le riz, l'orge, le blé, les potres?
Alors, les céréales sont des glucides complexes, comme les légumineuses d'ailleurs, et elles vous apportent également des vitamines du groupe B, principalement. Et si vous les choisissez plutôt complètes, elles vous apportent également beaucoup de fibres. Donc, elles sont intéressantes pour la santé, pour réduire le cholestérol, le mauvais cholestérol, par exemple, pour être à satiété, hein, pour ne pas avoir de grignotage dans la journée. Donc, elles sont très bonnes pour la santé.
Elles sont riches en protéines également. Elles complètent, elles sont, on l'a dit tout à l'heure,
oui,
les protéines des légumineuses.
Elles sont moins riches en protéines que les légumineuses.
Alors Thierry Lhermitte me demandait hors antenne la définition des légumineuses. Alors le Robert nous dit que c'est le fruit contenu dans une gousse et le plus souvent comestible. Est-ce que vous êtes satisfait Thierry Lhermitte?
Tout à fait, je vous remercie.
Merci. Non mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Tout le monde ne se précipite pas encore dans mon bureau. C'est parce que j'ai pas de bureau.
Mais je sais bien que ça tombe pas tout cuit dans le bec. Enfin, ce qui m'énerve, c'est que toi, tu es quelqu'un de bien dans ce milieu de fauves, là. Mmh. Ils le voient pas, ça, les acteurs? Qu'est-ce que tu manges, hein?
Mais ta boulette quinoa.
Ah, ben voilà, ça y est, ils t'ont contaminé. Alors déjà, ils t'ont coupé les cheveux. Après, ils te font travailler la nuit. Maintenant, ils vont t'affamer. Une salade de quinoa. Allez, va te coucher, va, tu me fais de la peine là. On dirait un petit haricot blanc tout sec.
L'extrait de la série 10%. Régis Marcon, vous êtes en duplex de Nice hein, et vous avez publié Céréales et légumineuses. Tiens, comment choisir le quinoa, les haricots, les lentilles, les pois chiches? Comment on s'y prend? Il y a des tas de labels en français qui permettent de repérer les meilleures céréales et légumineuses. Hein.
La plupart des quinoa, on le trouve dans l'Amérique du Sud, puisque c'est l'origine, le Pérou, la Bolivie. J'ai eu la chance de découvrir cette graine en 73 avec Didier Ferréol, et on l'a fait populariser en Europe, et maintenant c'est une céréale qui est très consommée.
Et comment on choisit? Il y a des tas d'AOP, d'appellations d'origine protégée, d'IGP, de labels rouges, qui permettent quand même de faire de bons choix quand même, hein.
Oui, on le retrouve surtout les AOP, les IGP, surtout sur les légumineuses, un petit peu moins sur les céréales. Ce qu'il faut savoir, c'est acheter les céréales le plus fraîches possible, mis à part peut-être le riz basmati. Le riz basmati est un riz assez extraordinaire parce qu'avec le temps, il se parfume encore beaucoup plus. Vous savez, basmati, ça veut dire porteur d'arômes. Vous voyez, c'est vraiment des riz qui, dans le temps, vous avez des riz qui ont 10 ans d'âge.
Et j'aimerais citer quelques AOP, le haricot coco de Paimpol, les lentilles vertes du puits, quelques labels rouges, les flageolets verts, les haricots blancs, oui. Les lentilles vertes, les lentilles du Nord, quelques IGP, le blé noir tradition Bretagne, le haricot tarbé, les lentilles vertes du Berry, les mojettes de Vendée, le petit épeautre de Haute-Provence, le riz de Camargue. Et puis, il y a aussi des produits labellisés Sentinelle, labellisés par l'association Slow Food, comme le haricot maïs du Béarn, la lentille blonde de Saint-Flour. Donc, il y a de quoi trouver de la qualité dans ce large répertoire des céréales et des légumineuses.
Oui, on va certainement retrouver de plus en plus de labels. Le label rouge est, je dirais, est plus accessible à tous. Mais bon, quand on regarde l'AOP, vous avez la lentille verte du puits, ça a été assez extraordinaire parce que ça recrée une dynamique dans cette région de la région du puits. Vous avez le Paimpol aussi qui est vraiment très intéressant.
Daniel Jerkens,
ça remet à l'honneur tous ces légumineuses.
Moi, je trouve ça d'abord extraordinairement poétique. La liste des noms est extrêmement poétique. C'est un voyage à travers la France et tous sont merveilleux. Moi, je sais que le haricot coco de Paimpol, par exemple, c'est une vraie fête. Chaque année, quand je le vois arriver chez mon primeur, il y a peut-être une petite chose, effectivement, comme Monsieur Marquand nous le disait, quand vous achetez des légumineuses, vérifiez la date de récolte qui est toujours indiquée sur le paquet et idéalement, essayez d'acheter des produits qui ont été récoltés dans l'année. Ça c'est important. Il faut faire un petit peu attention à la conservation également parce que ça se conserve longtemps, mais ça peut attirer les charançons, les petits insectes. Et une fois que s'il y en a dedans, on peut pas les. Enfin, il est préférable de pas les consommer. Dans ces cas-là, on peut mettre un peu de poivre, on peut mettre un piment dedans. Ou effectivement les mettre dans un bocal complètement étanche.
Beaucoup de questions sur l'index glycémique des céréales et légumineuses. Alexandra Rossion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet index glycémique?
D'une manière générale, les légumineuses ont un index glycémique bas. Et pour les céréales, c'est surtout lorsqu'elles sont riches en fibres, quand elles sont complètes par exemple.
Ou quand elles sont trop cuites?
Ou si elles sont trop cuites, c'est-à-dire que la cuisson est très importante pour les céréales. C'est-à-dire que si vous faites trop cuire votre riz, il va avoir un index glycémique beaucoup plus élevé et donc être digéré en moins de 2.
L'index glycémique du riz basmati est naturellement bas. Hein.
Ça, oui, faut naturellement bas. Oui, tout à fait.
Aline Perraudin.
Oui, c'est en raison de sa teneur en amido, je crois qu'il y a une forme d'amidon et qui fait que c'est un des riz blancs qui a l'index glycémique les plus bas.
On peut rappeler ce qu'est l'index glycémique peut-être?
Alors c'est l'effet que ça va avoir sur votre taux de sucre dans le sang, en fait.
Très bien. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous appelez de Carrières-sur-Seine. Oui. Alors, quel rapport entretenez-vous avec les légumineuses?
Ah ben, j'aime beaucoup les légumineuses, surtout dans les périodes hivernales. Mm-hmm. Je trouve que c'est très, très agréable. Mais la question que je me pose, c'est quand on travaille, que l'on a des enfants. Bon, moi, je suis retraitée maintenant, mais je pense à mes enfants. Est-ce que on n'a pas toujours le temps de les faire cuire, hein, parce que c'est quand même plus long que certains autres légumes. Et je voulais savoir si la valeur nutritive des lentilles en conserve était identique à celle de
Christine, nous sommes contraints d'interrompre parce que la liaison est très mauvaise, mais on a compris votre question. Régis Marcon, quelles sont les règles d'or pour cuire et pour réussir la cuisson des légumineuses? Vous donnez 8 règles d'or dans votre ouvrage.
Oui, c'est important. Et la première, c'est de bien faire tremper ces légumineuses. Mmh. On peut le faire aussi pour certaines céréales entières, pour les ramollir. Et surtout, nous n'en gardons pas ces taux de trempage qui contient, comme je vous disais à l'instant, de l'acide phytique qui peut aider à... On assimile moins les vitamines si on ne jette pas ces taux de trempage. Vous les lavez bien, vous allez les cuire tout doucement, suivant la qualité du haricot, suivant sa dureté. Allô? Pof. Allô?
On vous écoute, Régis Marcon, on est là,
non,
on
vous écoute. J'entendais plus rien. Donc, vous allez les cuire. Moi, je préconise d'y mettre une petite pointe de bicarbonate, c'est très naturel. On ne sale pas les légumineuses parce qu'elles ont tendance à durcir la peau elle-même.
Ah, on ne sale pas avant, aussi... on ne sale pas, d'accord.
Non, mais à la fin, en Asie, souvent, on met de l'algue kombu, qui a des propriétés qui font que la légumineuse se ramollit beaucoup plus rapidement. Et quelque chose qui me paraît essentiel, et des fois on se dit, tiens, pourquoi on met du thym, du laurier, du clou de girofle, c'est essentiel pour la bonne digestion. Ensuite, c'est la préparation elle-même. Et c'est dans ces pays asiatiques où j'ai vu que c'était extrêmement important, c'est l'assaisonnement à la fin. Les épices aident à la digestion. Non seulement ça amène de la gourmandise, du goût, mais ça vous aide à la, et ça évite la flatulence.
Alexandra Raution, notre auditrice demandait si les conserves avaient les mêmes vertus nutritionnelles que les légumineuses sèches.
Alors c'est toujours préférable de privilégier plutôt les légumineuses sèches. En revanche, effectivement, comme elle l'évoquait, quand on a très très peu de temps, on peut toujours avoir recours à quelques boîtes de conserve. Par contre, il faut prendre la précaution de bien rincer pour enlever le surplus de sel. Hein.
Thierry Lhermitte.
Et moi je voudrais savoir pourquoi ça se mange sec et pas frais, les légumineuses. Pourquoi c'est toujours sec? Voilà.
Pas tout. Par exemple, de mémoire, le coco de Paimpol, vous le trouvez frais, parfois en gousse, chez les primeurs. Mais souvent, vous les trouvez secs parce que ça, c'est de la conservation, en fait. Ça se conserve beaucoup plus. Alors, vous pouvez trouver aussi en surgelé un certain nombre de ces légumineuses fraîches.
Les fèves également.
Les edamamés. Voilà, mais en règle générale, effectivement, c'est un système de conservation.
D'accord. Régis Marcot, une légumineuse chère à mon cœur, les pois chiches. C'est un peu la légumineuse du pauvre, hein, le pois chiche. Hein. Quelle est l'histoire du pois chiche, tiens?
C'est l'Orient, tout le bassin méditerranéen, parce que c'est une légumineuse qui est adaptée au sol sec. Après, vous en avez différentes variétés, vous en avez même des couleurs noires. Mais c'est quand même la troisième légumineuse la plus consommée. Pourquoi? Parce qu'elle permet des recettes très intéressantes. Ça va de la soca, la farinata, les falafels, l'hummus. Tout le monde connaît l'hummus, bien entendu, quoi. Et une facile, surtout très facile à cuisiner.
Une recette de pois chiche que vous affectionnez. Tiens, faites-nous partager votre recette de pois chiche, Régis Marcon.
J'adore l'association. Pois chiche et lentilles corail. Ça, c'est des recettes un peu plus inspirées de la cuisine indienne, avec des currys assez fins.
Vous avez une recette facile à faire pour ce midi ou ce soir?
Oui, bien sûr.
Allez-y.
Alors, soit vous prenez des pois chiches déjà pré-cuits, pourquoi pas, si vous n'avez pas le temps, soit vous les cuisez vous-même. Vous faites revenir un oignon, une petite pointe d'ail. Vous allez colorer tout ça avec un peu de curry, un curry pas trop fort. Vous allez mettre vos lentilles corail, une pointe de tomate, et vous allez cuire avec un peu de lait de coco. Vous ajoutez les pois chiches à la fin. Il vous faut quoi, 15, 20 minutes, une pointe de coriandre fraîche.
Waouh, effectivement. Dalia Jerkens, une recette à base de pois chiches que vous affectionnez.
Alors moi, il y a une recette que je fais énormément. Là, on est vraiment sur la fin de la saison. Je prends des pois chiches déjà cuits, je les rince, je les mets de côté. Quand j'ai un peu le temps, j'enlève les petites peaux à chaque fois, même sinon non. Je prends deux belles aubergines, je les coupe en deux dans la longueur, ensuite en fines tranches, sur une plaque avec du papier sulfurisé, du sel, de l'huile d'olive, du poivre au four, 20 minutes. Ensuite, je les mets dans un plat, un couvercle dessus pour que la vapeur finisse de les cuire. Je coupe tout ça au ciseau grossièrement. Je rajoute les pois chiches, de la tomate, juste des tomates, une sorte de coulis de tomate, beaucoup de coriandre, du cumin, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et généralement, ma fille se roule par terre. C'est la meilleure salade du monde.
Message de Marie sur notre page Facebook qui nous dit, en ce qui concerne la consommation de légumineuses, pas besoin d'aller au Moyen-Orient, il suffit de faire un tour dans l'Italie du Sud où l'on consomme des légumineuses mélangées aux pâtes. Et moi, c'est vrai que j'affectionne une recette, les penne au pois chiche. C'est tout simple à faire, mais vous faites revenir votre cocotte du ghee, c'est du beurre clarifié avec des tas d'épices que vous faites revenir, des oignons, vous mettez vos pois chiches en conserve, si vous n'avez pas le temps de les faire tremper. Et puis ensuite, vous faites cuire vos pâtes al dente, vous rajoutez ça, vous rajoutez l'eau de cuisson. L'eau de cuisson des pâtes pour avoir un petit peu de...
Qui contient de l'amidon, ça va lier.
Et puis vous rajoutez de la coriandre, alors là, voilà quoi. On est bien. Alexandra Raution, une petite recette
Oui, j'ai une petite recette de curry de légumes secs, dans laquelle je mets... Alors, je propose justement d'utiliser des boîtes pour les personnes qui n'ont pas le temps de de les préparer. Donc une petite boîte de pois chiches, une petite boîte de lentilles, une boîte de tomates en dés aussi que vous mélangez avec un oignon haché, un petit peu d'ail émincé. Et puis un peu d'huile de colza, des graines de cumin, du curry, du sel, du poivre et de la coriandre. Ah, et vous pouvez rajouter un yaourt pour avoir une onctuosité dans ce curry.
Bon, et bien voilà, c'est très bien, vous m'avez donné faim là. Allez, on retrouve la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage humain. Pas sûr que votre chronique me donne faim.
Non. Pour tout vous dire, hier, je réfléchissais à ce que je pouvais bien vous raconter en ce dernier lundi de novembre. Et je me suis souvenu que l'excuse « j'avais écrit une superbe chronique, mais quelqu'un me l'a volée en boîte de nuit » avait déjà été prise. Heureusement, j'ai revu par hasard une patiente dans la rue, Madame Sugar. Avec qui je m'entends bien.
Hein ? C'est son vrai nom ?
Non, ben, vous vous doutez bien que non. Mais bref, on va l'appeler Madame Sugar. Avec qui je m'entends bien, elle rigole beaucoup. Et je ne sais pas comment dire ça autrement que nous témoignons l'un pour l'autre d'une sorte de familiarité décontractée qui tranche un petit peu avec la distance bienveillante que j'essaye habituellement d'entretenir avec mes patients. L'autre jour, en consultation, Madame Sugar me dit qu'il y a des années qu'elle n'a pas fait de bilan sanguin et que ça la rassurerait qu'on fasse le point. Alors je lui propose d'ajouter le dépistage des infections sexuellement transmissibles, ce que je propose à tous mes patients. Elle me répond que ce n'est pas la peine, qu'elle a le même compagnon depuis 25 ans. Et vous savez, Madame Sugar, les hommes mentent. Elle se penche sur le bureau, m'adresse un clin d'œil. Vous savez, docteur Beaulieu, les femmes aussi. On rit un peu et là, Madame Sugar commence à me dire combien elle aime son mari et combien la vie à ses côtés est un bonheur de chaque instant. Je l'aime, docteur. Si vous saviez, je l'aime, mais je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Des gens rêvent de connaître ça dans leur vie, de le vivre au moins une fois. Et nous, on peut le dire, on s'est trouvé. Oui, on a eu cette chance-là parmi les milliards d'inconnus sur cette planète. C'est mon âme sœur et je suis la sienne. Si vous saviez, oh là là. Je souris, elle sourit, mais dans la tête, je lui dis merci. Merci, car la journée n'a pas été facile. Elle a commencé avec des mauvaises nouvelles au cabinet. Une patiente que j'apprécie beaucoup était morte dans la nuit. Et à côté de ça, et ça paraît dérisoire, mais j'avais remis le manuscrit de mon dernier roman à mon éditrice, alors je me sentais un peu orphelin. Madame Sugar, il faut que vous sachiez, vous avez été mon rayon de soleil. Et les auditeurs et les auditrices, sachez-le aussi. Si des morceaux de vos vies tiennent bien la route, vous pouvez aussi les partager avec votre médecin. Jim Harrison, vous savez, l'immense écrivain américain, il a cette phrase dans son chef-d'œuvre Légende d'automne. Les touristes oublient souvent que la lune brille aussi à New York. Eh bien, pour les soignants, c'est l'inverse. On oublie souvent que le soleil brille au-dessus de nos têtes, de vos têtes, les patients. Et je veux dire, ça nous fait du bien d'entendre les patients parler de bonheur. On en veut de la guimauve, nous. On en veut du Marc Lévy, de la maison en pain d'épices. On les veut, les mille colombes et les millions d'hirondelles, les histoires dégoulinantes, des vies en rose à la pelle. On en veut de la petite maison dans la prairie croisée avec du téléfilm de l'après-midi sur M6. Jetez-nous votre bonne fortune à la tête et au cœur, parce que nous, d'habitude, on récupère tout le reste.
Toutes les chroniques de Baptiste Beaulieu sont à voir en vidéo sur votre blog. Alors voilà, sur la page Facebook de France Inter et sur le site également. On vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure chez notre camarade Nagui. Dans quelques minutes, on continue à explorer le monde merveilleux des céréales et des légumineuses. Partagez avec nous vos recettes 01 45 24 7000. Et puis appelez également si vous n'aimez pas du tout, mais alors pas du tout ça, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots, etc.
Me mente, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime.
Super chérie, super chérie, super chérie.
Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau.
Super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie.
Super chérie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
11 ans moins le quart et on s'intéresse ce matin aux bienfaits des céréales et des légumineuses avec la complicité du mensuel Et la Table. 01 45 24 7000. Vous êtes nombreux à réagir. Annie qui nous dit le quinoa n'est pas une céréale mais une herbacée de la famille des amarantes et des épinards. Merci pour l'information Annie. Madeline sur notre page Facebook me dit ça fait 10 ans que je mange très régulièrement des légumineuses. Elles sont devenues mes grandes amies culinaires. Elles sont nombreuses, diverses, assez magiques car étonnantes à cuisiner. Une recette inventée, petit marron, abricot sec et pois chiche. On essaiera, Daniel Jerkens de Elle. Et puis, on a également, JC qui s'interroge sur le soja. Il nous dit que le soja est un aliment qui peut être dangereux pour la santé et qu'il ne fallait pas en abuser. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur le soja, Aline Perraudin de Santé Magazine?
En fait, le soja a parfois une mauvaise réputation parce qu'il contient des isoflavones. Ce sont des phytoestrogènes, c'est-à-dire des substances qui miment l'action des qui a la même action que les hormones féminines. Donc, à cause de ça, il a eu cette réputation un peu sulfureuse et les autorités de santé ont limité sa consommation à 1 mg par kilo de poids corporel, ce qui veut dire par exemple 60 mg. Pour une personne de 60 kilos, c'est difficilement atteignable en France parce qu'on ne mange pas énormément de soja. Bon, si on prend un ou deux produits, il n'y a visiblement aucun risque. Toutes les études suggèrent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer.
Elodie sur Facebook nous dit « Je suis végétarienne et j'ai deux amis, ma cocotte minute et le bicarbonate de soude. La première pour éviter les longs temps de cuisson reprochés aux légumineuses et le second pour vous savez quoi ?» Daniel Jerkens en a parlé tout à l'heure. « Et à moi, le houmous, les falafels, le couscous et les pois chiches, les lentilles corail, etc. etc. » Et on a... au téléphone Colette. Bonjour Colette de Mazamé.
Bonjour.
Alors vous aviez envie, une très forte envie de partager une recette de pois cassé.
Voilà. Alors donc
ça tombe bien, j'adore ça Colette. Alors je vais noter, je vais tout noter là, vous savez.
Oui.
Alors je vous écoute.
Alors vous mettez de l'huile d'olive dans une casserole. Vous faites revenir de l'oignon et de l'ail. Ensuite, vous ajoutez de la carotte en rondelles, pommes de terre coupées en quatre, les légumineuses que j'ai trempées pendant plusieurs heures et bien rincées. Je mets que le poivre puisque, voilà, il faut pas saler. Et je mets 5 volumes d'eau. Et je fais cuire pendant 40 minutes et je sers mixer avec des croûtons aillés et un filet d'huile d'olive.
Est-ce que vous rajoutez de la sauge pour faciliter la digestion? Évidemment pour le goût, évidemment, mais est-ce que vous rajoutez de la sauge, vous?
Non.
Non. Bon, en tout
je
cas...
mets du thym.
Ah, très bien, très très bien. Régis Marcon, hein, vous êtes toujours avec nous, hein, vous êtes chef cuisinier, triplement étoilé. Elle est pas mal, hein, la recette de Colette, hein?
Ah, c'est appétissant. Puis le pois cassé, c'est... une légumineuse extraordinaire.
Ça vient d'où d'ailleurs le pois cassé?
Les potages de pois cassé.
Ça vient d'où le pois cassé d'ailleurs?
En fait, le pois cassé, c'est du pois frais.
Oui.
C'est une variété un petit peu plus grosse qu'on fait sécher, bien entendu, puis on l'utilise surtout pour les potages en fait.
Alexandre Arrosion, faut pas abuser de la crème fraîche dans les purées de pois cassé, les soupes de pois cassé, quoique, après tout.
Quoique, après tout, hein, tout est permis, sauf que oui, effectivement, faites attention aux portions quand même.
Alors, dans votre ouvrage, Régis Marcon, il y a énormément de lentilles, de nombreuses variétés, hein, lentilles vertes du puits, lentilles blondes, lentilles corail, aidez-nous à y voir plus clair, qu'est-ce qui fait la différence de toutes ces lentilles ?
Ah, déjà, visuellement, la couleur,
bien sûr.
Entendu, le goût. Mmh. Les lentilles corail sont faites des lentilles qui sont décortiquées, ce sont les seules. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles cuisent très vite.
On les utilise plutôt pour les soupes, hein, oui, pour les soupes, pour les purées.
Oui, la référence c'est le dalle, quoi. Mmh.
Hein, D-A-H-L, hein, c'est ça. C'est voilà. La bonne orthographe, c'est ça, Daniel Jerkens.
Oui, c'est ça.
Et est-ce qu'on peut faire, par exemple, un petit salé avec des lentilles corail ?
Écoutez, j'ai jamais essayé, mais je pense, il n'y a pas de raison.
Ça va faire une purée, peut-être.
Oui, il faut cuire le porc à part.
Ouais. Quelles sont vos recettes de lentilles préférées, tiens, Régis Marcon ?
Bah déjà, la lentille elle-même, j'essaye d'expliquer comment une légumineuse peut être plus gourmande. Mmh. En fait, il ne faut pas trop cuire la légumineuse, il faut qu'elle soit assez cuite, bien sûr, mais derrière qu'il y ait la souplesse, cette crème qui enveloppe la légumineuse. Mmh. Généralement, c'est par quelques lentilles un peu cuites en surplus, ce qu'on écrase. C'est comme le cassoulet, en fait. Vous avez cette légumineuse et puis le côté sauce qui accompagne bien.
Tiens,
la lentille verte du puits, ça reste une référence. Bien sûr, déjà, elle est AOP.
Comment vous les cuisinez, vous, Alexandra Rotion, les lentilles ?
Eh bien, alors moi, très simplement, par contre, je pensais à la lentille corail. On pourrait peut-être s'en servir pour faire un gâteau, éventuellement.
Un gâteau ? Mmh ? Ah oui. Comment vous y prenez ?
Ah bah, je pense que la lentille corail est facilement mélangeable avec de la farine, des œufs. Faut regarder, mais
je sais pas si je vais essayer. Régis Marcon. Régis Marcon.
Oui, bien sûr. Vous pouvez le faire avec des cocos. Hein, c'est comme la farine, ça vous remplace la farine. Ouais. Surtout les personnes qui sont allergiques au gluten ou qui ne veulent pas le gluten. Vous avez des gâteaux qui sont beaucoup plus moelleux, un petit peu plus denses peut-être.
Vous avez une recette de lentilles pour ce soir, Régis Marcon, facile à faire ?
Oui, ben là on arrive à l'époque des truffes, alors excusez-moi.
Tout le monde me connaît. Régis, je vous aime bien Régis, mais nous n'avons pas tous les moyens d'acheter des truffes.
Bon, alors on va tomber sur un œuf poché et des lentilles, voilà, par exemple. Voilà. Vous les cuisez un peu façon ragoût, bien moelleuse comme je l'expliquais tout à l'heure. Un petit œuf poché, et l'ensemble, c'est très harmonieux.
Vous évoquez également dans votre ouvrage les haricots, hein, c'est un vaste territoire, hein, les haricots lingots, les haricots tarbés, les haricots rouges, les flageolets. Qu'est-ce qui les rassemble, Régis Marcon ? C'est l'Amérique du Sud ?
Je crois que ça a été le moment les plus riches de ma vie professionnelle, de découvrir tous ces haricots, que ce soit en Amérique du Sud. On parlait de l'Italie, qui est très riche en haricots aussi. Vous avez les haricots Sarconi.
Ah, je connaissais pas.
Ils sont légèrement sucrés, un goût de beurre. C'est assez extraordinaire. Vous avez les haricots à Yucat, qu'on trouve en Espagne aussi. Bien sûr, tous nos haricots français, le tarbé, qu'on utilise généralement dans le cassoulet, quoi. Et le Mexicano aussi, qui est très intéressant. C'est un haricot un peu marbré, qui change la cuisson. C'est idéal avec le maïs, avec le riz. C'est un haricot qui tient bien en plus.
Daniel Jerkens, pour terminer, oui, votre haricot préféré.
C'est compliqué. C'est très compliqué, ça dépend des recettes.
Le haricot lingot, le tarbé, le flageolet.
C'est impossible.
Vous
impossible
cuisinez le haricot d'ailleurs à vos
oui,
enfants.
Oui, moi je cuisine beaucoup les haricots. Ouais. Soit frais, parfois je fais une sorte de petit ragoût avec beaucoup d'aromates. Soit le haricot noir en boîte que je mixe avec un peu de légumes, du bouillon. J'en fais une soupe que je sers avec une salade d'avocat et de la crème. Ça dépend.
Faudra revenir à tous autour de la table parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer le vaste répertoire des céréales. Merci Régis Marcon, je recommande vivement céréales et légumineuses, hein, cadeau à se faire ou à offrir. Merci Alexandra Rotion et Daniel Jerkens. À la une du dernier à la table.
Les
repas de fête.
Oui, les repas de fête. Et sinon, on a toujours en vente le hors-série Manger Mieux, dans lequel il y a effectivement des recettes de légumineuses, etc.
Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. Thierry Lhermitte, ambassadeur très très impliqué de la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors ce mois-ci, vous avez rencontré Claire Poyard, elle est à la fois médecin et chercheuse et responsable du pôle de biologie des hôpitaux universitaires Paris-Centre. Elle est également en charge du Centre National de Référence des Streptocoques et elle co-dirige l'équipe Barrières et Pathogènes à l'Institut Cochin à Paris. Cette chercheuse a reçu des financements de la Fondation pour la Recherche Médicale à plusieurs reprises et ses aides ont contribué à l'avancée de ses travaux. Sur quoi travaille Claire Poyard depuis 25 ans?
Alors sur le streptocoque du groupe B, qui est une bactérie qui est en général inoffensive dans la population générale. Elle est présente dans le tube digestif de 10 à 20% d'entre nous sans provoquer de maladie. Et chez les femmes colonisées, par la bactérie, hein, chez les colons, hein,
exactement.
On la retrouve aussi dans la flore vaginale et c'est au moment de l'accouchement que la bactérie est transmise de la mère à l'enfant. Alors chez les bébés, cette bactérie peut causer des méningites et des septicémies. Alors en France, ça veut dire que sur 800 000 naissances, elle est responsable de 500 cas de méningite chaque année. 10% des bébés vont décéder et 20% vont conserver des séquelles neurologiques. Alors depuis 2002... toutes les femmes enceintes sont dépistées et sont traitées si besoin par antibiotiques pour réduire le risque de transmission. Et grâce à ce traitement, les infections précoces du nourrisson ont baissé drastiquement, mais alors curieusement, les infections tardives, c'est-à-dire entre 0 et 3 mois, ont augmenté.
Et Thierry, les streptocoques sont étudiés par les médecins, les chercheurs depuis très longtemps.
Oui, ça fait longtemps. La première souche de streptocoque du groupe B a été isolée dans la flore vaginale d'une femme en 1935. Et alors cette bactérie, on n'en a pas beaucoup entendu parler au début du XXe siècle parce qu'elle est peu agressive. Et puis, au cours des années 60, on a assisté à une recrudescence inexpliquée des infections néonatales liées à ce streptocoque.
Alors depuis un quart de siècle, Claire Poyard travaille avec acharnement pour tâcher de répondre à trois questions essentielles.
Ben oui, alors pourquoi on a assisté à une recrudescence dans les années 60? Pourquoi cette bactérie est si dangereuse pour les bébés? Et pourquoi les bébés sont-ils malades principalement entre 0 et 3 mois? Alors, chez la recrudescence des infections...
Elle est expliquée.
Oui, elle est expliquée. Après plusieurs années de recherche, Claire Poyard et ses collaborateurs de l'Institut Pasteur ont montré qu'en fait, c'est l'utilisation massive et incontrôlée de la tétracycline, un antibiotique qui était donné à tout bout de champ dans les années 60, dès qu'il y avait une infection chez les gens, les enfants, et également dans l'alimentation, dans le traitement des animaux. Et ça a entraîné une sélection de clones de streptocoques extrêmement agressifs et résistants aux antibiotiques. Et aujourd'hui, ce sont ces clones qui sont responsables des infections néonatales rencontrées dans les hôpitaux.
Alors, les raisons pour lesquelles les bébés sont sensibles à ces infections sont très nombreuses, hein.
Alors, parmi les clones agressifs, il y en a un qui s'appelle le CC17, qui explique à lui seul la majorité des infections graves du nouveau-né, notamment la méningite. Parce que contrairement aux autres streptocoques, celui-là, il a la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire les méninges, et d'atteindre le cerveau, donc de provoquer la méningite. Alors il y a d'autres pistes qui sont explorées, parce que c'est probablement un ensemble de facteurs qui peut l'expliquer. Alors est-ce que les bébés malades ont un microbiote intestinal particulier? Est-ce qu'ils ont une prédisposition génétique? Il n'y a pas encore de réponse à ces questions, mais elles sont en voie d'élucidation. Et alors la troisième question, me direz-vous, pourquoi de 0 à 3 mois?
Exactement.
Alors la question n'est pas tranchée, mais c'est sûr que le maternage, c'est-à-dire le contact entre la mère et l'enfant, y est forcément pour quelque chose, parce que le dépistage du streptocoque, il n'est pas efficace à 100%. L'effet des antibiotiques, il dure pas si longtemps, et puis probablement qu'au bout de 3 mois, le système immunitaire de l'enfant se met en place.
Et quelles sont les solutions pour éradiquer ces infections néonatales?
C'est une infection bactérienne, donc a priori la première solution, c'est le vaccin. Alors, il y a d'autres laboratoires qui y travaillent, mais alors, ce vaccin est compliqué à développer et il faudrait vacciner les mères au cours du dernier trimestre de grossesse pour obtenir un taux d'anticorps suffisant pour protéger le bébé pendant les 3 premiers mois de sa vie. Après ça, les cas sont plus rares. Mais étant donné les polémiques et les réticences irrationnelles sur les vaccins qui sont propres à la France, l'adhésion des mamans sera difficile à obtenir. Ça sera donc sans doute d'autres pays qui profiteront en premier de cette avancée médicale. Ceci étant, c'est une voie de recherche qui doit absolument être poursuivie parce que c'est probablement la seule manière d'éradiquer cette infection dans les pays où les offres de soins sont plus limitées.
Et tout ce que vous nous avez dit ce matin a été validé par Claire Poyard.
Par Claire Poyard.
Comment aider l'équipe de Claire Poyard et comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale?
Ben c'est très simple. Par exemple, en faisant un SMS qui donne 10 euros, on envoie le mot « don » au 92 300 sur son téléphone.
92 300.
Dont, et ça donne 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique.
Grand bien vous fasse, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale tous les mois. Merci Thierry Lhermitte. On se retrouve bien évidemment le mois prochain. Demain, on s'intéresse à la peur du loup. Entre fiction et réalité, nous recevrons un grand historien passionnant, Michel Pastoureau, et la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer. Racontez-nous vos histoires de peur du loup, réelles ou imaginaires, au 01 45 24 47000. À la technique ce matin, Youtou Diego Hack Lopez et Pierre-Yves de Rolin. Merci aux techniciens de France Bleu Azur. À suivre, Nagui et sa bande originale.